Et le sujet de ce matin, de prédication, c'est « Rachetons le temps ». Vous connaissez ce texte, nous y reviendrons. Et donc, rachetons le temps pour Dieu, parce qu'il y a énormément de temps qui se perd, et nous n'avons pas toujours le temps de faire tout pour le Seigneur. Et peut-être que, en regardant bibliquement parlant, les raisons pour lesquelles c'est important de pouvoir racheter le temps, donner du temps, ou avoir du temps de qualité pour le Seigneur, peut-être qu'à ce moment-là, ça nous pousserait encore plus à nous dire, waouh, il faut le faire. Voilà, prions. Notre Dieu, notre Père, nous n'avons aucune prétention, mais nous voulons, avec le peu que nous savons faire, faire le mieux possible pour toi. Nous savons que nous sommes faibles. Nous savons qu'on a plein de défauts, que nous sommes limités par plein de contraintes, que la vie n'est pas aussi simple. Mais nous voulons qu'avec le peu que nous savons faire, nous fassions quelque chose à ta plus grande gloire. Seigneur, aide-nous, conduis-nous dans cette méditation et conduis-nous dans notre vie. Au nom de Jésus. Amen. Alors, c'est vrai que je proposerai deux lectures. D'abord, le psaume 90. Et puis ensuite, nous lirons Éphésiens, chapitre 5, et du verset 15 à 17. Donc, nous lirons les deux, l'un après l'autre. D'abord, psaume 90. Psaume attribué habituellement à Moïse. Bon, si on pousse un peu plus loin, il y en a qui disent que c'est pas vraiment, vraiment Moïse. C'est plutôt Salomon même. C'est pas grave. Nous savons que c'est Moïse. Si la majorité des gens disent que c'est Moïse, eh ben, c'est Moïse. Psaume 90. Prière de Moïse. Homme de Dieu, Seigneur, tu as été pour nous un refuge de génération en génération. Avant que les montagnes soient nées et que tu aies créé la terre et le monde, d'éternité en éternité, tu es Dieu. Tu fais rentrer les hommes dans la poussière et tu dis, fils de l'homme, retournez, car 1000 ans sont à tes yeux comme le jour d'hier quand il n'est plus et comme une veille de la nuit. Tu les emportes semblables à un songe qui, le matin, passe comme l'herbe. Et elle fleurit le matin et elle passe. On la coupe le soir et elle sèche. Nous sommes consumés par ta colère et ta fureur nous épouvante. Tu mets devant toi nos iniquités et à la lumière de ta face nos fautes cachées. Tous les jours disparaissent par ton courroux, tous nos jours disparaissent par ton courroux. Nous voyons nos années s'évanouir comme un son. Les jours de nos années s'élèvent à 70 ans et pour les plus robustes à 80 ans. Et l'orgueil qu'ils en tirent n'est que peine et misère car ils passent vite et nous nous envolons. Qui prend garde à la force de ta colère et à ton courroux selon la crainte qui t'est due? Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Reviens, Éternel, jusqu'à quand? Aie pitié de tes serviteurs. Rassasie-nous chaque matin de ta bonté et nous serons toute notre vie dans la joie et l'allégresse. Réjouis-nous autant des jours que tu nous as humiliés, autant d'années que nous avons vu le malheur. Que ton œuvre se manifeste à tes serviteurs et ta gloire sur leurs enfants. Que la grâce de l'Éternel, notre Dieu, soit sur nous. Affermis l'ouvrage de nos mains. Oui, affermis l'ouvrage de nos mains. Nous allons prendre l'autre texte, Éphésiens chapitre 5, du verset 15 au verset 17. Ça, c'est l'apôtre Paul. Prenez donc garde afin de vous conduire avec circonspection non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Deux textes qui vont donner aussi deux raisons pour lesquelles il est important de faire attention à la manière dont le temps s'écoule pour nous, à la manière dont nous utilisons le temps dans notre vie. Bien sûr, le temps est lié à la vie de l'homme. Il n'y a rien que nous puissions dire, penser, faire sans que le temps soit impliqué. Et il faut du temps au temps. Il faut du temps pour que l'être humain naisse, 9 mois. Il faut du temps pour qu'il devienne mûr, enfin qu'il devienne adulte, 40 ans. Bon, peut-être qu'on est déjà adulte un peu plus tôt. Mais bon, il y a aussi malheureusement 40 ans qui ne sont pas encore adultes. Bon, ça dépend. Il y en a comme, tout comme il y en a qui sont à 18 ans déjà très très adultes. Enfin, voilà. Mais il faut du temps. Il faut du temps pour qu'on bâtisse une maison, pour qu'on construise une carrière professionnelle, pour qu'on mette de l'argent de côté et qu'on fasse des choses avec son argent. Il faut du temps. Il faut du temps. Et vous remarquerez que il y a plusieurs dimensions à la notion du temps. Il y a cette dimension du temps qu'on compte. Un an, un jour, une semaine, etc. Mais il y a cette dimension du temps qui devient plus abstrait. Une époque. L'époque contemporaine dans laquelle nous sommes. Le Moyen Âge, c'était des temps, des époques. C'est plus abstrait. Et puis il y en a du temps, comme le temps de Dieu. En ce temps-là, j'enverrai mon serviteur, oracle de l'Éternel. Voyez, le temps est une notion qui est à saisir d'une manière pas seulement comptable, pas seulement en comptant, mais c'est une notion qui est beaucoup plus vaste. La destinée, le destin, c'est une question de temps aussi. Ce matin, je voudrais que nous regardions le temps en rapport avec notre relation avec Dieu. Le temps que nous vivons sous la présence de Dieu, avec Dieu, c'est de ce temps-là dont je parle. Que dit le psaume 90 à ce sujet? Le psaume 90 évoque l'idée que la vie de l'être humain est une vie qui est courte, qui est brève. Finalement, elle est comme l'herbe, la vie de l'être humain. Elle apparaît un jour, elle fleurit, et puis elle se fane et disparaît. C'est Jacques qui disait que la vie de l'être humain est comme une vapeur, juste le temps d'apparaître, et elle disparaît déjà. Et c'est ce que le psaume dit. La vie, elle est courte, elle est brève, elle est même fragile, exposé à la fois à la colère de Dieu d'un côté, mais aussi à sa grâce de l'autre. Le temps est court. Le temps d'une vie, c'est rien du tout. C'est pourquoi, dans cette espèce de conscience, Moïse ne peut faire rien d'autre que de faire une prière, de prier. C'est ça le psaume 90, une prière adressée à Dieu. Adressé à Dieu parce que il est conscient que le temps est limité, que son temps est court, que la vie est courte, elle est brève. Et il est conscient de cela, alors il s'adresse à Dieu. Il s'adresse à Dieu. Pourquoi à Dieu? Parce que Dieu n'est pas limité par le temps. Tu peux remettre le texte? Parce que Dieu n'est pas limité par le temps. Verset 2. Avant que les montagnes soient nées, et que tout est, que tu aies créé la terre et le monde, d'éternité en éternité, tu es Dieu. Il est en dehors du temps. Le temps ne le concerne pas. Il n'est pas influencé par le temps. Il ne subit pas l'influence du temps. Voilà pourquoi Moïse va s'adresser à lui. Dieu est en dehors du temps. Plus encore, verset 4. Car 1000 ans sont à tes yeux, 1000 ans sont à tes yeux comme la fleur, comme le jour d'hier, quand il n'est plus, et comme une veille de la nuit. Il est en dehors du temps, mais il voit le temps, le passé, le présent, le futur, et il a de l'influence sur le temps. Il peut changer le temps et les circonstances. C'est le maître des temps et des circonstances. Alors Moïse lui adresse une prière pour cela. Et s'il a le courage de le faire, s'il ose le faire, c'est parce qu'il y a deux choses qu'il voit chez Dieu qui sont des choses pour lesquelles Dieu veut bien exaucer sa prière. Première chose, au verset premier, vous avez constaté, Seigneur, tu as été pour nous un refuge de génération en génération. Première chose qui encourage Moïse à faire cette démarche, c'est qu'il sait que Dieu est un refuge pour les malheureux. Il est fidèle toujours, toujours. Dieu ne met pas dehors quelqu'un qui vient à lui. Dieu en accueille. Dieu cache, défend, protège. Dieu veille. Et voilà pourquoi il dit, je peux oser aller crier vers lui, faire ma prière. J'ai pas encore dit de quelle prière, hein. Je dis juste qu'il est motivé par ça. Il dit, ce Dieu-là, c'est un Dieu qui est bon. C'est un Dieu qui est en mesure d'entendre les prières du malheureux. Et donc, je peux. Ce Dieu, vous remarquerez, n'est pas simplement un Dieu qui est un refuge pour les gentils. Il est un refuge pour les malheureux, pour les gens qui fuient sa colère, pour les gens qui vont rechercher un peu de paix, un peu de calme. Bien que ce soit un Dieu qui est en colère avec l'homme à cause du péché, c'est un Dieu qui ouvre la porte pour donner une solution à ce problème. Voilà la première raison pour laquelle Moïse ose faire la prière vers Dieu. La deuxième raison, c'est qu'il prend conscience que Dieu est puissant. Autrement dit, il est capable de faire quelque chose avec sa requête. Il est capable de changer les choses. Comme je le disais, il est le maître des temps et des circonstances. Donc, il est capable de répondre à sa prière. Et quelle est la prière maintenant de Moïse? La prière de Moïse se trouve justement au cœur même de ce texte, au verset 14, je crois, c'est ça? Remonte un peu. Non, pardon, verset 12. Enseigne-nous à bien compter nos jours. Ça, c'est la requête de Moïse. Seigneur, je sais que tu es puissant. Je sais que tu es bon et que tu es compatissant. Je sais que tu es capable de le faire. Je sais que tu es en dehors du temps, que le temps n'a pas d'influence sur toi. Bien au contraire, toi, tu pèses sur le temps. Alors, apprends-moi, apprends-nous à compter nos jours. Apprends-nous à être sages avec la manière dont nous vivons notre vie, la manière dont nous comptons notre temps. C'est du temps comptable ici, du temps chronologique. C'est le temps que nous mettons dans notre agenda. C'est le temps que nous mettons pour faire les choses. C'est le temps que nous mettons pour parcourir une distance d'un endroit à un autre. C'est le temps que je calcule en disant, il me faudra autant de temps. C'est ce temps-là. Et Moïse dit, Seigneur, apprends-moi à bien compter mon temps, à bien utiliser le temps, à bien mettre à profit ce temps-là, à bien utiliser le temps pour que ce temps te soit rentable, que ce soit un temps, en termes de comptabilité, qui soit un temps qui soit à ton avantage. Que dans le calcul, le solde dise, oui, effectivement, ça a été du bon boulot pour le Seigneur. Enseigne-nous, enseigne-moi à compter le temps, à compter mes jours. Et, en fait, quand on regarde bien, le but pour lequel Moïse veut le faire, s'il veut que il veut que le Seigneur lui apprenne à compter le temps, c'est parce que il sait que c'est ça le chemin de la sagesse. Il sait que c'est de cette façon-là qu'il sera plein de sagesse. Peut-être juste une petite parenthèse. C'est quoi la sagesse? Peut-être que dans la Bible, quand on parle de la sagesse, c'est l'art de vivre selon Dieu. C'est la manière dont j'apprends à vivre selon Dieu, mais en combinant tout ça avec les paramètres humains. Je vis selon Dieu dans une société qui est contre Dieu. Je vis selon Dieu avec une société qui a des valeurs totalement différentes des valeurs de Dieu. Et je vis de manière à ce que je sois en même temps en paix avec les gens autour de moi, pour ne pas être un extrémiste, mais en même temps, je marche avec le Seigneur dans la pureté, dans la vérité. Il faut de la sagesse. Il faut de la sagesse pour savoir répondre aux gens quand ils te posent des questions d'une manière agressive contre Dieu. Il faut de la sagesse pour savoir comment me dominer pour que, en même temps, je comprends les attaques des gens contre Dieu, mais en même temps, je ne les accepte pas. Il faut de la sagesse pour savoir parler aux gens, pour agir, pour faire des choix, pour décider. C'est de cette sagesse-là dont Moïse parle. Et il est conscient que cette sagesse passe par la manière dont on organise bien son temps. Mais on n'est pas assez doué, doté pour cela. On a besoin du Seigneur pour nous aider. On a besoin de lui. En fait, j'aime ce texte parce que ce texte dit la question du pourquoi et la question du comment. Pourquoi est-ce que c'est important de bien utiliser son temps? Parce que la vie est courte. Ça, c'est la question du pourquoi. La question du comment faire en sorte que ce temps qui est important, je puisse l'utiliser optimalement, eh bien, la question du comment, c'est la question de venir vers Dieu. Bien vivre, c'est vivre avec Dieu et pour Dieu. Et ce Dieu tout-puissant et bienveillant, eh ben, lui veut nous aider à vivre cette vie. Mais c'est tout un apprentissage que nous avons à faire auprès de Dieu. C'est toute une vie que nous avons à passer avec Dieu qui nous permet de pouvoir bien utiliser notre temps. Parenthèse. Il y a des gens que vous n'avez plus revus depuis très longtemps. Vous le revoyez peut-être 20 ans après. Moi, je parle de mon expérience personnelle. Quand je rentre à Kinshasa, je retrouve mes copains. Mes copains avec qui j'ai grandi, avec qui j'ai fait mes humanités. On est tous devenus un peu vieux maintenant. On a tous des cheveux blancs. C'est chouette, c'est beau. Et on se regarde, parfois on se taquine. T'as une calvitie maintenant, toi. Ah, mais toi, t'as des cheveux blancs, toi. Ah, mais toi, voilà. Et toi, mais t'as des bourrelets par lui. Enfin, bref. Bon. Donc, mais à côté de ça, on se rend compte d'une chose. Il y en a qui sont d'une sérénité. C'est incroyable. Ils ont l'âge qu'ils ont, mais ils sont sereins. Ils ont une façon d'aborder la vie. Tu croirais que ils n'ont jamais eu de problème dans leur vie. Tu croirais que leur vie a toujours été une vie correcte. Ça a toujours, tout se passe comme si, comment dirais-je, ils ont tout prévu, quoi. Ils ont tout prévu, il n'y a pas d'imprévu dans leur vie. Tout baigne. Et puis t'as l'autre, là. Parfois même tu commences à éviter de le fréquenter parce que tu te dis, j'ai l'impression que je suis trop heureux, enfin heureux, hein, pas peureux dans la peur, mais heureux dans le bonheur. J'ai l'impression que je baigne plus dans le bonheur et que ça peut même le complexer tellement ça va pas du tout. Et si je fais cette parenthèse, c'est juste pour dire que il y a des fois, notre façon d'utiliser notre temps, notre façon de vivre peut déterminer notre état de santé. Certains choix qu'on fait font que notre vie est trépidante, folle, exposée à toutes sortes de choses, et ça finit par se voir sur le visage. Et puis, certains choix, plus équilibrés, plus sages, plus posés, permettent que, bon, on voit notre vie, au bout des années, ben, ok, on tient le coup, on gagne certaines fraîcheurs, on est encore dans une espèce de paix et de tranquillité. Alors, la question ici donc, je vais parler de la question du pourquoi et la question de comment acquérir et mieux utiliser le temps pour Dieu. Il faut le faire évidemment dans la prière. La prière et demander à Dieu. Et je crois que ce texte nous met devant une responsabilité qui est la nôtre, qui est cette vie de prière. Je ne parle pas de la prière en termes de requêtes. Seigneur, mon pneu a crevé, oh s'il te plaît, aide-moi à trouver de l'argent. Non, c'est pas de ça que je parle. Seigneur, ma fille va passer son examen, Seigneur, s'il te plaît, aide-la à réussir. Ce n'est pas de ça que je parle. Je parle d'une prière dans laquelle je demande à Dieu des choses pour Dieu, pour sa gloire, pour que je sois un instrument à sa plus grande gloire. Parfois, ça peut être une prière pour que Dieu change mon cœur par rapport à ce que j'entends, de ce que les gens disent de moi. Les gens disent parfois que je suis comme ça, comme ça, comme ça. Seigneur, écoute ce que les gens ont dit. S'il y a des aspects qui sont justes, aide-moi à changer. Aide-moi à changer. Donne-moi la force de dire, ok, d'accord, je change. S'il y a des choses chez moi qui doivent aller plus de l'avant, peut-être une plus grande profondeur dans la parole de Dieu, une plus grande profondeur dans la vie de prière. C'est cette prière-là. Parce que c'est ce que Moïse fait, c'est ça. Il ne demande pas de compter les jours pour le plaisir de vivre une vie qui est, je ne sais pas comment. Il demande cela parce qu'il a le souci de Dieu. Il a le souci que dans sa vie, la gloire de Dieu se manifeste. Il a le souci que dans sa vie, les choses qu'il fait, peu importe dans quel domaine de sa vie, soient en connexion avec la volonté de Dieu. C'est ça que Moïse recherche. C'est notre responsabilité que de prier aussi comme ça. Seigneur, manifeste ta grâce dans ma vie. Seigneur, donne-moi la sagesse. Seigneur, remplis-moi du Saint-Esprit. Seigneur, éclaire ma route. Seigneur, éclaire mes choix. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, ouvre mes yeux pour que je puisse faire plus ta volonté. Donne-moi le courage d'évangéliser. Donne-moi le courage de parler de toi. Donne-moi le courage de voir comment je peux vivre ma vie de façon à ce que les gens qui me voient sachent que je suis à toi. Révèle-toi à moi, fais-toi connaître plus profondément moi, que je te connaisse vraiment. Il y a des gens qui vivent 40 ans, 50 ans de vie chrétienne, mais qui ne connaissent pas Dieu. Ils ne connaissent pas. Et tout ce qu'ils savent, c'est tu ne tueras pas, tu ne mentiras pas, tu feras pas ci, et c'est tout. Dieu, oh oui, c'est, parfois ils ont autant peur de Dieu, parfois, que les mécréants. Je vais dire les mécréants, c'est pas comme ça qu'il faut dire. Ça, c'est dans une autre religion qu'on parle ça. C'est pas tout gentil. Mais que les non-croyants. Vous voyez? Et pourtant, le but, l'enjeu même de la vie chrétienne, c'est une intimité plus profonde avec Dieu. Que je puisse dire, avec les années de ma vie, je le connais. Afin que, quand je serai au ciel, je puisse pas dire, oui Jésus, ah, attends, c'est pas lui, ah, non, mais que, là, je dise, ah, Seigneur, on s'est tellement parlé au téléphone, hein, on s'est tellement guidé avec le GPS, maintenant, je te vois, chouette. Le pourquoi et le comment. Et demander que Dieu nous apprenne à compter nos jours, c'est le chemin pour faire habiter la sagesse, pour faire habiter la sagesse dans notre cœur. Et ça, ça pourrait nous aider à vivre notre vie pour lui. Nous changeons de priorité à ce moment-là. La priorité de nos agendas change. la priorité de notre vie change. Le but de notre vie change. Mais je ne vais pas vous donner des recettes. Mon but est juste que nous prenions conscience, que nous ayons cette motivation de le faire. La motivation, c'est que la vie est courte. Profitons de la vie que nous avons, le peu de temps que nous avons. Ouais, grâce à Dieu, peut-être qu'il y en aura qui vivront 100 ans ici, peut-être 120 ans, grâce à Dieu, mais la vie reste courte. Alors, profitons pour vraiment apprendre du Seigneur afin de servir le Seigneur avec ce que nous allons apprendre. Deuxième texte, deuxième motivation, Éphésiens chapitre 5, nous l'avons lu, versets 15 à 17. Il y a une autre raison pour laquelle c'est important de veiller sur le temps, de faire attention à la manière dont nous vivons, d'où nous dépensons notre temps, encore une fois, du temps comptable, c'est-à-dire nos jours, nos semaines, nos mois, nos années, etc. Que dit le texte au verset 16 ? Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Pourquoi donc devons-nous racheter le temps ? Car le temps sont mauvais. Non seulement donc le temps est court, mais notre vie sur terre est en plus caractérisée par le temps mauvais, des mauvais temps. Et c'est pas le mauvais temps simplement pour la température qu'on a dehors avec la neige, le verglas. C'est pas que pour ça. Mais les temps sont mauvais au niveau moral. Notre période, notre époque est caractérisée par des mauvaises choses. Des choses terribles qui se passent. Des choses répréhensibles aux yeux de Dieu. Des choses que Dieu condamne totalement. L'aggravation du mal. Peut-être que je pourrais m'étendre longuement là-dessus en vous parlant de la violence, de la maltraitance, des abus sous toutes les formes, de la guerre, de Daesh, de tout ce que vous voulez. Peut-être, mais peut-être aussi que ce serait bien de rester dans la parole de Dieu. J'aimerais vous faire voir un texte qui en parlait déjà à l'époque, et je crois que nous sommes dans la même époque encore maintenant, dans 2 Timothée au chapitre 3, c'est l'apôtre Paul qui voit un peu l'avenir, qui voit un peu la vie et qui dit des choses qui nous parlent encore aujourd'hui puisque c'est la réalité de notre temps d'aujourd'hui. Regardez ce qu'il dit dans 2 Timothée 3, versets 1 à 9. « Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles car les hommes seront égoïstes. » Est-ce que ce n'est pas le cas aujourd'hui ?« Amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, n'est-ce pas la réalité d'aujourd'hui ? Insensibles, les gens souffrent, ils s'en foutent, déloyaux, malhonnêtes comme pas possible, calomniateurs, intempérants, aucune maîtrise, cruels, ennemis des gens de bien, même à l'école, parenthèse, le petit gamin qui étudie bien, on le prend dans le coin, on le frappe parce qu'il étudie bien, parce qu'il réussit. C'est pas bien qu'il réussisse. Il doit être un cancre comme tout le monde. Ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu. Ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Ils aiment l'apparence chrétienne. Ils se mettent dans leur beau costard. Ils sont bien, ils font des alléluia, ils étendent des mains, ils prient, mais quand ils pleurent, même quand c'est le moins, ils sont heureux avec le Seigneur. Mais quand ils rentrent chez eux, c'est l'enfer. C'est l'autre vie. Ils sont totalement différents de comment ils étaient à l'église. Au point que j'ai des gens qui m'ont rapporté que parfois certains enfants des prédicateurs, des pasteurs se sont révoltés à cause de ça. Ce qu'ils voyaient à l'église, ce qu'ils voyaient à la maison était tellement différent qu'ils ont dit, si ce Dieu-là est respectable, alors allez. Ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Et l'apôtre de dire, éloigne-toi de ces hommes. Et j'ai juste voulu qu'on continue un peu pour donner une illustration de cela, parce que ça existe avec des gens. Alors, verset 6, Il dit, il en est parmi eux qui s'introduisent dans les maisons, qui captivent des faibles femmes chargées de péché, agitées par des passions de toute espèce, apprenant toujours et ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la vérité. De même que Jannès et Jambrès s'opposèrent à Moïse, de même ces hommes s'opposent à la vérité, étant corrompus d'entendement et réprouvés en ce qui concerne la foi. Mais ils ne feront pas de plus, ils ne feront pas de plus progrès. Oh là là, je sais pas lire ça. Ils ne feront pas de plus grand progrès. Aïe, aïe, aïe. Des fois on bégaye, hein. Car leur folie sera manifeste pour tous, comme le fut celle de ces deux hommes. Est-ce que ce n'est pas la réalité d'aujourd'hui? N'est-ce pas une caractéristique qu'on peut aussi dire des gens de nos jours, aujourd'hui? Un autre texte pour appuyer cela, parce que l'apôtre Paul est très sensible à cette réalité-là. Et donc, il avertit Timothée, son fils spirituel. Qu'est-ce qu'il lui dit encore? De Timothée 4, le verset 3 et 4, il dit, « Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs et détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. » Je ne sais pas. Je ne vais pas faire des commentaires, mais c'est notre monde aujourd'hui aussi. Alors, les temps sont vraiment mauvais. Jésus le disait déjà dans son temps, il disait que les temps seront tellement mauvais qu'il a même peur pour les élus eux-mêmes. Il en a même peur. Il se demandait, si le Fils de l'homme revient, trouvera-t-il encore la foi sur terre? Parce qu'il sait que les temps sont mauvais. L'influence du diable se déploie d'une manière de plus en plus grande. Et il se donne de plus en plus des ressources. On passerait des heures et des heures à en parler. Ce n'est pas le but, je ne vais pas glorifier le diable. Est-ce que ça ne nous fait pas réfléchir sur la manière dont on doit utiliser notre temps? Parce qu'il faut bien vivre notre vie et il faut le racheter. La question du pourquoi, c'est parce que les temps sont mauvais. La question du comment, c'est racheter le temps. Et moi, j'aime bien l'idée de racheter. Je ne vais pas trop la développer, mais je vais juste un peu badiner, comme on dit, avec ça. L'idée de racheter, je trouve ça important parce que je pense au mot rachat. Et le mot rachat, c'est le fait d'acquérir à nouveau quelque chose. C'est comme si cette chose, je l'ai acquis une première fois et je l'ai perdue. Et je l'acquiers à nouveau. Jésus nous a rachetés parce que nous étions à Dieu et nous avions été perdus et il nous a rachetés. Racheter, c'est suppose une activité réfléchie. Je ne rachète pas quelque chose juste pour le racheter. Je le rachète parce que j'ai réfléchi, j'ai découvert sa valeur. Je me suis dit, c'est important que je puisse à nouveau avoir ça. Racheter le temps. Racheter le temps, c'est une démarche où je suis sérieux. Je mets à profit l'instant, chaque instant de ma vie. Je repense à mon temps. Je ne veux pas faire de mon temps n'importe quoi. Je veux faire de mon temps quelque chose qui a de la valeur pour Dieu, quelque chose qui est consacré à Dieu. Je veux racheter le temps pour le Seigneur et je veux comprendre que cette démarche-là est une démarche réfléchie. C'est s'asseoir et dire combien de temps je consacre à Dieu. Jonathan était surpris parce que il m'a demandé quel est le bon livre qu'il faut qu'il lise, un livre chrétien. Je lui ai dit, moi, quand j'étais à ton âge, j'avais été marqué par Ralph Chalice, ce fameux livre « Si tu veux aller loin ». Alors, il a pris le livre « Si tu veux aller loin » et il dit, mais il est quand même fou, hein, Ralph Chalice. Parce que Ralph Chalice dit qu'il faut donner la dîme de son temps. Et comme c'est 24 heures, donc ça veut dire 2h40. Il doit donc trouver 2h40 de chaque jour pour consacrer à Dieu. Et il dit, mais il est fou, Ralph Chalice. Où est-ce qu'on va trouver 2h40 à mettre sur une journée pour Dieu? C'est énorme. Voyez? Mais ça l'a obligé à s'asseoir et à réfléchir et à pousser son agenda, à pousser ses calendriers et à pousser ce programme, à dégager et à se poser des questions, les bonnes. Qu'est-ce qui est vraiment important? Qu'est-ce qui ne l'est pas? Où est-ce que je perds du temps? Où est-ce que je peux gagner du temps pour avoir du temps avec le Seigneur? Ça, il nous appartient tous de réfléchir et de donner du temps au Seigneur. Il faut que j'apprenne à connaître aussi le temps de Dieu. Pas seulement, parce que le temps que je veux consacrer à Dieu, c'est un temps de qualité pour Dieu. Alors il faut que j'apprenne à connaître le temps de Dieu. Le temps va me manquer de pouvoir encore expliquer le temps de Dieu, etc. J'avais juste énoncé cette notion de chronos et de kairos, cette notion de temps comptable et de temps en termes de principes abstraits. Dieu a son temps aussi. Et nous avons à nous mettre dans le temps de Dieu, le temps de sa grâce. Le temps pour lui de lui consacrer du temps. C'est l'Ecclésiaste qui disait, il y a un temps pour toute chose. Un temps pour rire, un temps pour pleurer, un temps pour dormir, un temps pour se lever, etc. À nous de demander à Dieu de nous donner cette sagesse, d'entrer dans le temps de Dieu, pour que ce que je fais, je fasse ça pour Dieu, mais avec Dieu, ensemble avec Dieu. Alors, peut-être justement cette importance de vivre dans cette dimension du temps avec Dieu, ça m'impose de me rapprocher de Dieu, dans la prière, d'être à son écoute, d'être à sa disposition. Et je dois viser dans ma vie une transformation de mon être. Je dois me mettre devant Dieu et lui dire, Seigneur, transforme-moi, change-moi, change mon cœur, transforme mon caractère. Donne-moi une meilleure connaissance de toi. Donne-moi d'être capable de te servir sur une base que je te connais. Servir un maître que je connais. Servir un maître selon la manière dont le maître veut que je le serve. Pas selon ma façon. Ce qui fait que nous nous faisons souvent du mal les uns les autres, c'est parce que nous venons avec nos conceptions propres. Je viens servir Matthieu, mais je viens avec ma façon de voir. Alors, je prends Matthieu, je le pousse là-bas, parce que pour moi, je pense que je lui rends service. Et Matthieu se cogne là-bas, aïe! Et puis, il ne veut plus que je le serve. Il dit, tu me fais du mal. Mais lorsque je le fais avec le Seigneur, que ce n'est plus dans ma conception à moi, mais dans la conception de Dieu, selon la méthode de Dieu, certainement, si Matthieu est dans le Seigneur aussi avec moi, il appréciera. Il verra plus que moi dans le service que je lui rends. Il verra Dieu. Et ça ira entre lui et moi. Ça ira même très bien. Il sera reconnaissant à la fois à Dieu d'abord et à moi après. Ce matin, mes amis, mon but est simplement de nous exhorter à racheter le temps. Rachetons le temps parce que les temps sont mauvais. Rachetons le temps parce que la vie est courte. Faisons-le avec tant qu'on a encore le souffle de vie. Faisons-le pour le Seigneur. Je ne vous mets pas le contenu. Vous savez que du temps pour la prière, du temps pour lire la Bible, du temps pour le service chrétien, du temps pour... Et d'ailleurs, je n'ai même pas besoin de vous le dire. Si vous demandez au Seigneur, il vous éclairera encore mieux que moi pour ce que vous devez faire. Et pour l'Église, et pour les vôtres autour de vous, et pour ce monde. Dieu vous les éclairera. Alors voilà, rachetons le temps. Amen. Prions. Seigneur, merci pour ta parole et ton aide et le fait que tu peux nous inspirer pour faire mieux, Seigneur, et que ainsi, pour ta gloire, ton nom soit glorifié. Nous te confions ainsi toutes choses et nous voulons que tu nous conduises au nom de Jésus. Amen.